Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Je vous propose, dans nos lectures en liberté, de voir avec vous la suite donc de ce texte de Charles Juliette, L'inattendu. Lorsqu'il est seul loin du village et qu'il voit apparaître quelqu'un qui vient à sa rencontre, lorsqu'il reste des heures à garder ses vaches dans ce pré éloigné et entouré de bois, lorsqu'il doit monter dans la grange pour pousser du foin dans les trappes, lorsqu'il part au petit matin dans le brouillard derrière ses vaches, et que son regard n'est plus à même de tenir en respect les menaces qui le cernent, lorsqu'il doit s'enfoncer dans la nuit pour porter un bidon de lait, lorsque les matins d'hiver, le jour n'étant pas encore levé, il pénètre dans l'église vide, silencieuse, glaciale et mal éclairée, où les pas résonnent, signalant sa présence à cet homme tapi dans l'ombre, est venu ici pour l'enlever. Lorsqu'il descend à la cave pour en remonter du vin, des pommes de terre ou des betteraves. Lorsqu'à l'écart du village, il est contraint d'emprunter ce chemin bordé d'un côté par un haut mur ruisselant d'eau et de l'autre par une vaste maison au mur aveugle, trouée à hauteur d'homme par la bouche noire d'un large soupirail, d'où pourrait surgir il ne sait trop quel monstre qui se jetterait immédiatement sur lui. Lorsque les soirs d'hiver, il lui faut sortir pour se rendre à l'écurie ou aller chercher du bois dans la remise ouverte à tout vent, noire de la plus opaque des ténèbres. Lorsqu'il croise ce vieil et immense Italien au visage émacié et mal rasé, coiffé d'un ample béret noir posé à l'horizontale sur sa tête, vêtu d'une capote dépenaillée, les jambes prises dans des bandes molletières, ayant à la main un grand et lourd bâton dont il frappe le sol au rythme de sa marche. Lorsque cet homme qui est toujours en train de chantonner lui dit bonjour d'une voix rocailleuse, s'adresse à lui dans un parler incompréhensible, lui passe la main dans les cheveux pour dissimuler qu'il est sans doute un voleur d'enfants. Lorsque ce vieux monsieur qui a perdu un bras et un avant-bras à la guerre, et que l'enfant entoure de prévenance dans la crainte qu'il ne remarque combien ce petit garçon appréhende de le rencontrer, lorsque cet homme, pour le remercier d'avoir telle ou telle attention à son égard, lui frotte la tête de sa main rigide, gantée de cuir noir et qui émet de légers et sinistres grincements, l'enfant est proie d'une peur qui le suffoque, le ravage, le laisse anéanti. Il retire ses vêtements dans la cuisine et, nu, les pieds chaussés de vieilles espadrilles, il traverse la cour plongée dans la nuit et le brouillard. Puis il descend dans la cave où il se tient maintenant près de ses trois hommes. Il a froid et éprouve une telle gêne qu'il se sent bien malheureux. Il voudrait demeurer là, dissimulé dans l'ombre de la cuve, mais il n'est pas venu ici pour rester inactif. Il passe d'abord deux bras, puis la tête, puis le buste. L'obscurité est totale, et la forte odeur de vin lui pique les narines. Il cède de ses coudes, de ses bras, de ses jambes, et par des mouvements de reptation parvient à entrer dans le tonneau. Sa gêne et son appréhension ont disparu, et pendant un court instant, il ressent un certain bien-être à se trouver là, à l'abri des regards, seul. dans cette ténèbre. Par le guichet, on lui tend une ampoule. Il fixe celle-ci à la douille qui est introduite au-dessus de lui par le trou de la bonde. Une faible lueur se répand et il a plaisir à voir le rouge brun teinté de mauve qui l'enveloppe. À l'aide d'une petite hache, il racle chaque douve pour en détacher les plaques de tanin. À la suite de quoi, il brosse soigneusement tout l'intérieur du tonneau. Puis on lui passe des casseroles d'eau chaude et il projette celle-ci autour de lui en prenant soin de ne pas s'ébouillanter. Il récure et lave ainsi plusieurs tonneaux. Un instant plus tard, de retour dans la cuisine, il est debout dans un baquet près de la cheminée où brûle un bon feu et sa mère le lave. Heureux qu'on ait besoin de lui et fier de s'être acquitté d'une tâche qu'un adulte n'aurait pu effectuer, il se sent important et raconte avec force détail ce à quoi il vient de s'employer avec tant d'application. Et lui, qui d'ordinaire aime à rester silencieux, il s'étonne de tous ces mots qui coulent de ses lèvres. Elle était ouvrière, toujours habillée de noir. Elle vivait seule et il fallait l'appeler mademoiselle. Elle aimait bien l'enfant et l'enfant l'aimait bien. Souvent, quand il lui rapportait des commissions, il restait un long moment à bavarder avec elle et avant qu'il ne parte, elle ne manquait jamais de lui donner une petite pièce. C'était l'hiver et elle venait chaque soir à la même heure. Elle se plantait près de la cuisinière et, tenant son bidon des deux mains devant elle, elle demeurait là durant d'interminables minutes à parler de tout et de rien. L'enfant lui lançait des regards courroucés, lui répondait sur un ton bourru tout en s'efforçant de lui cacher sa mauvaise humeur. Les autres mangeaient et lui, de sa main libre, feignait de s'amuser avec son morceau de pain. Car dès qu'elle poussait la porte, il plaçait en toute hâte entre ses genoux la casserole dans laquelle sa mère lui avait servi sa soupe. Il détestait que cette femme vienne chercher son lait lorsqu'ils étaient à table. Le père et la mère sont arrivés dans ce village il y a déjà de longues années et ils y ont loué une petite ferme. Quand ils s'adressent l'un à l'autre, ils se parlent en patois. Un patois qui n'est pas employé dans cette région. L'enfant le comprend. Et bien qu'il ne sache pas le parler, il connaît de nombreux termes qu'il prononce à sa façon. Un jour, pour épater ses copains, il bredouille toute une série de mots qui ne veulent rien dire et affirme avec conviction qu'il parle maintenant américain. En échange d'un cochon, ils ont acquis 3 brebis, 2 blanches et 1 noire, et à la fin du printemps, on procède à la tonte. Pour faire carder et filer la laine, l'enfant la porte à une vieille dame à demi aveugle qui habite un lointain hameau enserré entre 2 hautes collines. L'hiver venu, la mère tricote chaque soir pendant de longues heures. Lorsqu'il enfile pour la première fois cette paire de chaussettes, il constate avec satisfaction qu'elles s'ajustent bien à son pied et à sa jambe. Mais elles sont malheureusement d'un blanc sale et ont un aspect des plus rustiques, car le fil fourni par la vieille dame n'avait pas une grosseur uniforme. De surcroît, elles sentent le suint et le petit débris de bois resté dans la laine lui gratte les mollets. À force de les porter, un gros trou finit par apparaître à un talon. Un matin, avant qu'il ne parte à l'école, la mère raccommode cette chaussette à la va-vite avec de la laine noire. Le dimanche, lorsqu'il met ses chaussures basses pour aller servir la grand-messe, il ne peut se défaire de cette idée qu'on le verra toujours de dos et que cette grossière plaque noire au talon attirera les regards. Et la semaine suivante, le fils du boucher arbore de superbes chaussettes avec d'harmonieuses couleurs dessinant toute une combinaison de losanges. L'enfant les admire tant qu'à partir de ce jour, il n'ose plus adresser la parole à celui qui les porte. L'enfant aime bien leur voisin. C'est un homme d'une trentaine d'années, grand, costaud, et ses bœufs ont d'immenses cornes et une belle robe rousse. En été, quand les gens du quartier se réunissent devant son écurie pour passer la soirée, l'enfant se tient à ses côtés, lui tâte les biceps, joue avec sa casquette, lui pose des questions sur son travail et ses bêtes. Un soir, l'homme lui apprend à siffler. Un autre soir, il lui dit avec un grand sérieux d'aller jusqu'à l'église. Au pied du mur, il devra ramasser les crottes de pigeons tombées des nids et se les étaler sur les joues. Ces crottes sont connues pour être un bon engrais. S'il les applique sur son visage pendant au moins 15 jours, il est sûr de voir sa barbe pousser. Et ainsi, il deviendra rapidement un homme. L'enfant ne sait trop ce qu'il doit penser de cet étrange conseil. Il soupçonne qu'il s'agit là d'une plaisanterie, mais il a un tel désir de grandir qu'un jour il décide de se livrer à quelques essais. Toutefois, avant de se rendre à l'église, il en parle à sa mère. Mais celle-ci secoue la tête et, en l'attirant contre elle, le traite en riant de petit imbécile. En un éclair, il comprend combien c'est vrai. Cette révélation le meurtrit profondément et pendant quelques jours, le visage tendu, il ne cesse de se demander s'il sera condamné sa vie durant à se comporter en imbécile. Depuis quelque temps, il ne marche plus qu'en tenant les bras à bonne distance du corps, les paumes tournées vers l'arrière. Sa mère s'en étonne et lui demande s'il a mal quelque part. Il la rassure, lui affirme qu'il ne souffre de rien, mais explique qu'il ne peut tenir ses bras autrement. Elle craint qu'il n'ait une déficience osseuse et parle d'aller le montrer au médecin. Il secoue la tête et murmure que ce serait inutile. Un matin, il refuse d'enfiler sa chemise et décrète qu'il ira à l'école en maillot de corps. C'est un enfant doux, docile, attentif, à ne pas faire de peine à autrui, mais sa mère sait que lorsqu'il a une idée en tête, il est pratiquement impossible de l'amener à y renoncer. Alors, elle cède, attendrie, sachant bien qu'il n'a pas mauvais fond. Ce matin-là, toutefois, elle lui montre qu'elle n'est guère contente, mais elle repasse en hâte un maillot de corps. Arrivé près du bac, il pose son cartable sur la margelle, en sort calque décalcomanie, les humecte de salive et les applique sur ses bras et ses avant-bras. Puis il part tout heureux en chantonnant et en admirant ses tatouages. Le dimanche après les vêpres, il descend au jeu de boules, il se faufile parmi les groupes et se porte vers lui. Jusqu'au soir, il restera à ses côtés, le suivant dans tous ses déplacements. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, pas très grand, mais tout en muscles et qui marche le buste légèrement en avant. Sa voix est puissante. Il porte sa casquette de biais enfoncée jusqu'aux sourcils. Son maillot de corps est d'une blancheur immaculée et ses bras, à la musculature impressionnante couverts de tatouages, se tiennent en arc de cercle à l'écart de son corps, les paumes tournées vers l'arrière. Cet homme possède un cheval de trait, un tombereau citerne et une pompe à bras munie de 2 leviers. L'enfant espère qu'un jour il acceptera de l'embaucher et qu'il aura la joie de vider les fosses d'aisance avec lui.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants. Secret à celle qu'on connaît à peine et qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui reste s'évanouit. Mais dans la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. Belle compagne de voyage dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin. Connaît seul peut-être à comprendre, mais qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent. Vous en inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on pense avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus. Aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir. On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
À nouveau l'inattendu de Charles Juliette. Une journée torride. Le village assoupi. Les vêpres ont pris fin depuis un bon moment et il est assis à l'ombre du tilleul sur une marche de ce large escalier de pierre qui monte à l'église. Aucun de ses copains n'a accepté de rester pour aller garder les vaches avec lui. Tous ses chenapans sont partis se baigner à la rivière. Coude sur les genoux, visage calé entre ses poings, il est là, dans la rue vide, le regard perdu, à méditer gravement sur la noirceur des choses humaines. Soudain, Gustave est devant lui. L'enfant se dresse, prêt à déguerpir. Connu un peu partout à la ronde, Gustave est une des hautes figures de ces lieux. Il habite un hameau et quand on le croise dans les rues du village, il est immanquablement ivre. Pourtant, il boit très peu. 3 verres de vin suffisent à le mettre dans cet état d'ébriété qu'il recherche et qu'il veille à ne jamais dépasser. C'est un être intelligent, blessé, qui invente des dictons, raconte des histoires pleines de sel. Il décoche en badinant aux gens qu'il croise des vérités qui ne sont guère appréciées. D'une main, il tient son vieux vélo, qui l'aide à ne pas s'affaler, et de l'autre, il se saisit de la nuque de l'enfant. Il pue le vin, a de la difficulté à garder les yeux ouverts, il grince des dents. Les jambes de l'enfant tremblent. « Écoute-moi, gamin, je vais te dire quelque chose. Tu devras toujours t'en souvenir parce que ça te servira. Ça te servira tout au long de ton existence. Écoute-moi bien, gamin. Mieux vaut boire et s'en ressentir que de ne pas boire et s'en repentir. » Appuyé sur son vélo, il poursuit son chemin, chantonnant le précieux conseil dont il vient de gratifier l'enfant. Il aime le voir travailler. Il aime le voir découper un morceau de cuir à l'aide d'un tranchet. Il aime le voir glisser des pointes entre ses lèvres, les prendre une à une et les planter dans le cuir de la semelle neuve. Il aime le voir disposer en travers de sa cuisse plusieurs filaments de chanvre, les rouler sous sa paume et les enduire de poids. Il aime regarder le petit établi et les outils et les petits casiers où sont logés les clous. Il aime surtout voir ses mains, sa longue barbe blanche et son bon regard. Près de lui, le silence a une qualité particulière et tout devient différent. Presque chaque jour, à la sortie de l'école, l'enfant lui rend visite. Il frappe au carreau le plus doucement possible, entre, balbutie un bonsoir respectueux, puis s'assoit sur le petit tabouret. L'homme s'arrête alors de travailler. En silence, prenant son temps avec grand soin, il roule une cigarette, l'allume avec un curieux briquet à amadou, tire la première bouffée en plissant les paupières. Ce n'est qu'après avoir rejeté la fumée et une lente expiration qu'il dit à voix douce. « Alors, as-tu bien travaillé aujourd'hui ?» Dehors, il pleut ou il neige, et il fait bon près de ce petit poêle qui diffuse une agréable chaleur. Dans sa famille et avec ses copains, l'enfant est le plus souvent silencieux, trop occupé à écouter et observer. Mais ici, dans cette minuscule échoppe, près de cet homme à la barbe de Père Noël, les mots lui viennent facilement, et il ne peut s'empêcher de déverser ce qu'il a en tête. Il raconte sa journée, parle de l'instituteur, de la récitation qu'il doit apprendre, d'une leçon d'instruction civique, ou d'une vache qui a vêlé. Mais ce qu'il préfère, c'est poser des questions. Des questions sur le métier de cordonnier, ou des questions plus générales auxquelles il ne sait trouver de réponse. Pourquoi des hommes sont-ils grands et d'autres petits? Pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi les chiens et les vaches ne vivent-ils pas aussi longtemps que les êtres humains? Et y a-t-il quelque chose derrière les étoiles? Et pourquoi le bon Dieu n'accorde-t-il pas son pardon à ceux qu'il a plongés en enfer? L'homme hoche la tête, réfléchit et répond avec gravité. Parfois, tout en continuant de travailler, il lui récite de longs poèmes de Victor Hugo ou lui raconte un épisode des Misérables. L'enfant est suspendu à ses lèvres et en un instant se trouve transporté en d'autres mondes. Les émotions qui le ravagent le laissent anéanti, et quand il part, il n'est même plus capable de dire au revoir au vieux monsieur. Certains jours, le maire du village vient trouver son ami. C'est un homme de haute taille, corpulent, au crâne chauve, qui parle en bougonnant d'une voix bourrue et qui n'inspire à l'enfant que de la crainte. Dès qu'il est là, il semble qu'il n'y ait plus de place dans cette pièce des plus exiguës, et l'enfant s'éclipse, mais bien à contre-cœur. Les deux hommes ont fait la grande guerre ensemble, et ils seraient tellement heureux de pouvoir écouter ce qu'ils disent. Un jour, les voisins viennent passer la soirée dans sa famille. Les femmes tricotent devant la cheminée, et les hommes assis autour de la table jouent à la belote tout en vidant un verre. L'enfant lutte contre le sommeil, car il a quelque chose à dire. Quand ils ont fini leur partie, ils demandent tout à trac au vieux père M s'il serait capable de rouler une cigarette d'une seule main. Bien qu'un peu ivre, le père M accepte d'essayer. Mais il s'avère bien vite que ses gros doigts malhabiles ne peuvent réussir une opération si délicate. Alors l'enfant explique que le cordonnier, lui, roule une cigarette avec sa seule main droite. Aucun brin de tabac ne tombe, et lorsqu'elle est achevée, la cigarette est aussi régulière et aussi pleine que s'il l'avait tirée d'un paquet. Il a vu faire le cordonnier, de ses propres yeux. Il est inutile de prétendre que c'est une chose impossible à réaliser. « Bon, qu'est-ce que tu me comptes là ? Cette espèce de vieux socialiste ?» L'homme est fâché et il se lève. Il a prononcé ce mot de « socialiste » d'un ton méprisant, qui donne à penser que le cordonnier n'est pas un homme respectable, qu'il pourrait mériter certains reproches, que sa vie n'est peut-être pas sans tâche. Après le départ des voisins, ils se sont retirés en grand silence. On apprend à l'enfant qu'il a commis une gaffe, qu'il aurait mieux fait d'aller se coucher. Lorsqu'il était jeune, le père M a été réformé à cause de sa tuberculose et il fut terriblement humilié de n'avoir pu partir à la guerre. Or, le maire et le cordonnier en sont revenus avec plusieurs décorations. Et depuis lors, le père M les déteste. Les années passent, mais sa rancœur ne s'éteint pas. L'enfant ne cesse de se demander ce qu'a voulu dire le père M. Il n'ose questionner son instituteur à ce sujet, et encore moins le cordonnier. Socialiste ! Ce mot est-il un mot sale, ordurier, qu'un enfant n'a pas le droit de prononcer ? Est-il en rapport avec le fait que cet homme est veuf, pauvre, qu'il connaît à fond l'œuvre de Victor Hugo ? Avec le fait qu'il boite parce qu'il souffre de ses anciennes blessures. Profonde est sa perplexité. Mais lorsqu'il pousse timidement la porte de la petite échoppe, qu'il voit le vieux monsieur, sa longue barbe blanche, son paisible regard empli de douce bonté, la question n'a plus de sens. Et il ne doute plus que cet homme est de ceux qui ne peuvent faire de mal. Le fils de la bouchère a une trentaine d'années. On le voit toujours en blouse avec un foulard bleu sombre autour du cou. Il possède une belle et puissante voiture et il est maquignon. On raconte, dans le village, qu'il est riche, qu'il a amassé une vraie fortune en peu de temps. Au volant de sa bétaillère, il vient parfois chercher l'enfant et l'emmène dans une ferme ou sur un marché. Un jour, ils se rendent tous deux au chef-lieu du département pour la plus grande foire de l'année. C'est une immense place coupée par des rangées de platanes. Il y a de nombreux paysans avec des poussins, des poules, des canards, des oies, des lapins, des cochons, quelques taureaux, quelques chevaux et des centaines de vaches. Les maquignons sont facilement reconnaissables. Ils ont un bâton à la main et portent tous une identique blouse gris-bleu. Il les observe avec attention. Les voit tourner autour d'une bête, évaluer son poids, puis commencer à la marchander. Il épie les regards, les mimiques, les gestes, ne perd rien de ce qui se dit. Il s'arrête près d'un énorme taureau à la belle robe brune. Le maquignon parle à voix basse au paysan, qui ne pipe mot et se contente de branler la tête. Le maquignon insiste, ménage des silences, lance un chiffre, élève la voix, affirme bien haut que c'est sa dernière proposition. Après de longues minutes, à bout d'arguments, lassé de se heurter à un mur, il s'impatiente, prend à témoin ceux qui ont fait cercle et, dans un mouvement de colère, levant les bras au ciel, abandonne la partie. À peine s'est-il éloigné de quelques pas qu'il revient à la charge, reprend à voix basse le conciliabule, s'emploie à démontrer aux paysans qu'ils demandent trop. Celui-ci rétorque qu'il ne rabattra pas un centime. L'assaut est relancé, le paysan continue de ne rien vouloir entendre. Bientôt, comme le maquignon fait mine de renoncer, il cède. Les deux hommes se regardent dans les yeux, se frappent dans les mains, et l'affaire est conclue. Le lendemain, quand il part pour l'école, l'enfant a la tenue adéquate, sans ceinture, la longue blouse noire tombe comme il convient, et son foulard rouge est du meilleur effet. Commence alors pour lui une période de troc intensif. Gomme, bille, ficelle, cahier, couteau, lacet, clou, craie, boîte d'allumettes vide, tout est objet de convoitise, et sitôt acquis devient monnaie d'échange. Mais il est déçu quand celui à qui il propose une bonne affaire l'accepte sans batailler, sans chercher à obtenir que la transaction lui soit plus favorable. Ce qu'il aime, c'est trouver des arguments, se montrer persuasif, l'emporter de haute lutte. En fin d'année, le panier où il amasse ses richesses sera plein. Il le soumettra alors à son ami maquignon, et celui-ci, impressionné par un enfant à ce point prometteur, se plaira à lui apprendre ce si beau métier. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc ce texte de Charles-Juliette, l'inattendu, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.